1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission, Le Grand Tout. On est ensemble pendant 1h10, comme vous le savez, j'espère, tous les jours du lundi au vendredi de 16h30 à 17h40. Une émission qui aujourd'hui encore vous fera entendre un extrait de l'album Yarin Yoksa pour Diria Yildirim et groupe Simsek, c'est notre disque d'or de la semaine. On est dans la semaine du Festival National du Film d'Animation à Rennes, donc on retrouvera encore une fois aujourd'hui un invité présent au festival, c'est Charles Nogier, réalisateur de Voir le soleil se lever dans la lune, un superbe court-métrage d'animation qui prend comme point de départ eh bien, des poèmes de Victor Hugo et puis aussi quelques ambiances très douce et très naturelle. On retrouvera, puisque c'est mercredi, Soisy Glebaï qui nous parlera bouquin. Aujourd'hui, eh bien, ce sera Plein les poches, numéro 60. Elle nous parlera de ce roman Ces femmes-là par Ivy Pochoda, sorti aux éditions Globe et dans la collection Satellite. Et puis, on ira faire un tour dans la programmation du Binic Folks and Blues Festival qui se déroulera cette année du 25 au 27 juillet. Et puis, on terminera avec les découvertes Ferrarock de la semaine. Mais je vous le répète, on débute avec un extrait de l'album Yarin Yoksa, nouvel album pour la chanteuse Diria Yildirim, musicienne allemande, originaire de Turquie, ses parents en tout cas le sont. Et elle nous propose, comme à son habitude, eh bien, avec le groupe Simsek, des ambiances entre folk psychédélique turc des années 1970 et puis ambiance un peu plus groovy et très contemporaine. Vous le retrouvez, ce nouvel album sur le label Big Crown Records, Yarin Yoksa. On le traduit par S'il n'y a pas de lendemain. C'est une tonalité assez sombre, hein, fait de douleur, hein, ce constat qu'elle dresse sur cet album. Mais musicalement, ça ne se ressent pas. La preuve avec ce morceau pour ouvrir l'émission aujourd'hui, le titre Ceylan par Diria Yildirim et groupe Simsek. Bonne émission.
We'll be right back.
C'est la page culture de l'émission Le Grand Tout sur Canal B toute cette semaine, en tout cas mardi, mercredi et jeudi. Je reçois des réalisateurs, des réalisatrices de films d'animation. Vous le savez, c'est le Festival National du Film d'Animation toute cette semaine à Rennes. Aujourd'hui, nous allons parler avec Charles Nogier. Bonjour Charles.
Bonjour.
On va parler de ton film qui s'appelle Voir le soleil se lever dans la lune. Il est projeté dans le cadre de cette compétition Dans ma tête, il me semble, qui s'appelle comme ça, cette sélection-là, avec quelques autres films qui seront notamment montrés, projetés jeudi au TNB. Je vous donne cet horaire-là, c'est 16h jeudi 24 avril, puisqu'il y aura des rencontres avec des réalisateurs de films, notamment Charles Nogier. Je vais commencer avec ces quelques paroles d'un poète français. Tout à coup, j'eus un soubresaut, un éclair flamboya, ce fut merveilleux et formidable. Je fermais les yeux d'éblouissement, je venais de voir le soleil se lever dans la lune. Magnifique image, on la doit à qui, Charles ?
Eh bien, ce poème vient de... Enfin, c'est pas un poème, c'est de la prose, mais c'est Victor Hugo, voilà, qui en fait parle d'une visite qu'il a fait à son ami Arago à Paris, et où il a pour la première fois découvert la Lune avec le télescope d'Arago, qui devait être une sacrée machine. Et voilà, donc c'est un petit livre où il parle beaucoup du rêve, du fait de prendre le temps d'observer les éléments, la nature. Donc voilà, ça me parlait beaucoup pour ça. Et c'est vrai que le film est plutôt nourri du recueil de poèmes Les Contemplations, mais en fait il se nourrit de l'ensemble de moi, ce qui m'a plu dans la lecture de Victor Hugo, surtout en poésie. Et en fait ce poème, il a inspiré donc le titre du film. Et c'est en résidence, en fait, où j'avais toujours pas le titre de mon film. Et en fait, j'étais en résidence avec une poétesse. Et on a parlé comme ça, je lui donnais mes idées. C'était vraiment difficile de trouver un titre. Et donc, je lui ai lu le début de ce petit livre-là, Le Promontoire du Songe. Et puis, on a sélectionné le texte qui est au début du film. Et voilà, qui me paraissait assez énigmatique. Moi, je voulais pas que ce soit un truc qui soit... comment ? Je voulais pas faire une illustration d'un poème de Victor Hugo en particulier. Je voulais vraiment essayer, en tout cas, de retranscrire un peu les sensations, les émotions que j'ai eues en lisant Les Contemplations et ce texte. Et c'est aussi inspiré des dessins, des lavis de Victor Hugo, que moi, je connais finalement plus que son univers littéraire. J'avais découvert ça quand j'étais adolescent, et ces vagues, ces châteaux et tout, ça me restait en tête. Et depuis que je suis ado, je voulais faire un projet avec ça, quoi. Voilà.
Abouti ce projet véritablement avec ce court-métrage d'une dizaine de minutes, de l'animation en peinture à l'huile sur verre. Alors, c'est peut-être pas si répandu que ça, en tout cas moi je connais pas très bien. Pourquoi tu as choisi cette technique-là? Justement parce que ça permet de rejoindre un peu le travail de Victor Hugo en tant que dessinateur.
Ouais, c'est ça. En fait, moi à la base, je fais plutôt de la bande dessinée, à la base. Je fais beaucoup de fusains et en fait, j'ai travaillé sur le film La Traversée de Florence Miaille, et je faisais du posing. Donc le posing, c'est que on dessine les personnages avec le style de la réalisatrice, et pour faciliter le travail après des animatrices et des animateurs qui font vraiment le travail d'animation,
un travail de fantôme un peu.
Ouais, c'est ça, c'est le travail qu'on voit pas, mais c'est vrai que en fait c'était assez nécessaire. Voilà, c'est un peu la première pose, la dernière pose du plan, et toutes les actions que les personnages font. Donc il y a toutes les intentions et tout ça, donc ça facilite vraiment le travail après. Mais c'est un travail très difficile parce que on doit vraiment être une sorte de caméléon, et donc adopter le style de Florence, qui est entre un truc très réaliste, un peu des inspirations de Matisse, enfin voilà, des choses que moi je maîtrisais pas très bien au début. Et donc moi je découvrais cette technique de peinture à l'huile sur verre. Pour la bande dessinée, j'avais essayé de bosser sur des rhodoïdes, mais pas avec de la peinture, mais avec de l'encre de Chine. Et puis ça marchait pas. Enfin, c'était un peu le bordel. Mais c'est quand même pour ça que j'ai fait le test pour la traversée. Et donc tous les soirs, en fait, avant de rentrer chez moi, je passais une demi-heure à peu près à dessiner avec mon style et cette technique-là. Et en fait, j'ai découvert que on pouvait vraiment peindre la lumière. Parce qu'en fait, c'est une grande table lumineuse, le niveau zéro, un peu cette table lumineuse, et après on a plusieurs niveaux de vitres. Et donc voilà, j'ai découvert cette technique-là en bossant sur la traversée. Et moi, j'avais jamais fait d'animation, mais à la fin du film, à la fin de mon travail sur la traversée, je me disais, mais il faut absolument que j'essaye au moins. Même peut-être ce sera que des images clés, mais il faut que je fasse un truc avec cette technique. Et voilà, et donc j'ai fait des tests. Enfin, j'ai construit un banc titre en rentrant chez moi, un peu comme un truc où je me disais, je ferai quelque chose avec cette technique. Et pour moi, qui aime travailler la lumière, c'était génial, quoi. Parce que en fait, je peux aussi travailler avec des effets de flou, des effets de diffraction de lumière. Et en fait, je découvrais ça quasiment à chaque plan. Je devais réinventer un peu la technique. C'est peut-être aussi ma façon de travailler un peu en bricolage, quoi. Mais c'était vraiment très excitant, quoi.
Bon, ça marche super bien, en tout cas, hein, évidemment, ces ambiances très douces, comme ça, finalement, entre le soleil et la lune, entre l'ombre et la lumière, on passe de l'un à l'autre de manière super harmonieuse. Alors, il y a bien, évidemment, cette évocation de la nature. On commence dans une forêt, comme ça, il y a des cerfs, des chevreuils qui courent, et puis on va voir des fourmis, progressivement, et puis on va voir un poulpe qui crache de l'encre, comme ça. Alors, l'encre qu'utilise le poète, peut-être un peu.
Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. C'est moi, j'adore ce. En fait, c'est tiré d'un La Vie de Victor Hugo, qui est assez connu. Et c'était, je pense, un de mes premiers tests de peinture pour voir si j'arrivais à maîtriser un peu cette technique-là. Et il y avait un peu cette idée aussi que Victor Hugo, il broie un peu du noir au début du film. Donc j'avais envie qu'on commence sous l'eau avec quelque chose d'assez gros, épais, et qu'il y ait cette encre qui remplit l'écran. Et voilà, c'est forcément lié à la fois à ses écrits et à ses La Vie, qui sont assez sombres. Et ouais, il y a un truc qui m'a énormément inspiré, même autant que les écrits de Victor Hugo, c'était je vais oublier le nom. C'était un livre d'Annie Lebrun, qui est un essai sur le travail de Victor Hugo et qui prend vraiment cet axe de la lumière et de l'ombre. Et donc moi, c'est ça qui m'a plu aussi, comme une espèce de entre guillemets prétexte pour travailler la lumière et avoir tout l'univers de Victor Hugo avec sa maison, ouais, c'est les choses qui le lâche pas, quoi. Donc,
qui l'anime encore.
Voilà, qui l'anime. Voilà, j'osais pas.
On peut le dire. Ouais. Je veux pas mettre ce jeu de mots-là, mais.
Non, mais c'était vraiment ça. Et aussi, moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était donc moi, c'est mon premier film d'animation. Et donc, c'était vraiment, moi, j'étais avec le personnage, à essayer de le suivre pas à pas, et j'étais un peu comme le personnage à vaciller. Je savais pas comment on anime une marche, par exemple, et donc c'est un vieillard, et donc ça fait des espèces d'accidents qui me plaisaient vachement, et ce truc de l'accident, je l'ai gardé jusqu'à la fin, à faire un peu plus d'animation que prévu, à rajouter des choses, à en enlever d'autres, voilà, c'était un espèce de chantier jusqu'à la toute fin, quoi.
Alors il y a ce double côté fantomatique, finalement, parce qu'il y a le fantôme de sa fille Léopoldine qui a péri dans l'eau, comme ça, dans la mer, elle s'est noyée, et puis il y a le fait qu'il était grandement intéressé aussi par les choses de l'au-delà, ouais, par les fantômes, par l'occulte, les tables tournantes, on les connaît, ouais, et les fantômes, c'était vraiment évident, finalement, de travailler comme ça.
Ouais, c'est ça, d'ailleurs ce côté occulte, presque chamanique, c'est un des trucs, en fait je suis tombé sur le travail d'Annie Lebrun en écoutant des émissions autour des spectres, des choses comme ça. Et ma première version du scénario était beaucoup plus tournée vers le côté table tournante. Mais il y avait quelque chose que je trouvais un peu forcé, en tout cas moi, dans ma manière de voir les choses. J'avais plutôt envie de quelque chose de plus évanescent et de mettre à l'image plus un rêve que des faits, de voir Victor Hugo qui vraiment est avec ses amis et qui pratique l'étape tournante, quoi.
Là, on est vraiment dans un univers impressionniste, finalement, ouais, hein, qui est à peu près d'époque aussi, ouais. Finalement. On parle avec Charles Laugier, hein, de ce très beau film d'animation, Voir le soleil se lever dans la lune. On fait une pause sonore et musicale avec un extrait d'un titre de Tomoko Sauvage qui fait la musique du film. Alors, c'est pas pas extrait du film, mais on est proche de cet univers-là, assez ambiant, comme ça, assez ASMR un petit peu, mais ça, on va en parler un peu plus tard avec Charles Nogier. Vous entendiez un extrait d'un titre Métamorphosis, bien choisi comme morceau, puisque oui, il y a pas mal de métamorphoses qu'on voit dans le film de Charles Nogier, voir le soleil se lever dans la lune d'après quelques phrases de Victor Hugo, d'après aussi un recueil de poèmes, d'après aussi l'envie de peindre le reste de vie, comme ça, qu'il peut avoir autour de lui, ce vénérable Victor Hugo, avec le souvenir de la disparition de sa fille, bien sûr, Léopoldine. Alors, ça peut donner l'impression qu'il est très sombre, ce film. Il l'est, évidemment, d'une manière. Et puis, il est très lumineux d'une autre manière aussi. Cette musique qu'on entendait là, c'est pas celle du film, mais qu'est-ce qui fait que, Charles, tu as travaillé avec Tomoko Sauvage pour la musique de ce film-là?
Alors Tomoko, en fait, je l'avais écouté pendant que j'écrivais le film. Enfin, j'ai pas vraiment écrit. C'était vraiment des notes plutôt graphiques. Pendant que je dessinais un peu autour du film, je l'ai écouté sur Trax, sur Arte, parler de son travail, et ça m'a beaucoup inspiré aussi dans quelque chose de tout l'univers marin. En fait, elle travaille avec des waterballs, et donc c'est des sons qui sont totalement faits dans l'eau. Et donc moi je la mettais dans les dossiers pour avoir des subventions, des trucs comme ça. Et puis à un moment j'avais déjà commencé l'animation du film et je voulais à la base qu'il n'y ait pas de musique, mais seulement des bruitages qui évoquent un petit peu le passage vers l'au-delà, des choses un peu mystiques comme ça. Et je retrouvais pas je me suis dit il faut qu'il y ait quand même une musique qui permette une espèce de décalage avec le monde entre guillemets réaliste, réel. Et je crois que c'est ma copine Charlie Belin qui m'a dit mais propose-lui, ça se trouve elle, ça va l'intéresser. Donc voilà, j'ai envoyé un mail avec des intentions sonores, et donc on a travaillé comme ça en échange de mails, on s'est rencontrés, et c'était exactement ce que je voulais. Enfin, c'était vraiment parfait. Enfin, ouais, j'ai retrouvé exactement les intentions, avec en plus des petits arrangements selon l'évolution un peu des apparitions de Léopoldine. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression, en tout cas moi, ça remplissait vraiment la fonction que je voulais, des espèces de décollement comme ça de la réalité et qui ont un côté apaisant. Moi, j'imaginais le film. C'est vrai qu'il est sombre, mais quand je le faisais, moi, j'étais déjà hyper excité de découvrir cette technique et puis l'animation. Et je l'imagine aussi comme une espèce de méditation, quelque chose d'apaisant, quoi.
Voilà. Il y a quelque chose de très sensible aussi, finalement, dans tout le film, parce que tous les sens sont convoqués presque, à part le toucher, évidemment, c'est difficile de toucher un film, mais on prend plein les yeux, et puis on sent aussi, toi, le fait que tu touches la matière du verre, sans doute, et l'huile dessus. Et puis ce son-là, il y a des côtés presque ASMR sur les bords, je dirais, mais sans le côté cliché et parfois repoussant de cette technique là qui consiste à vraiment à caresser l'oreille de tout près. Est-ce que ça fait partie des choses que tu avais en tête aussi?
Ouais, complètement. Justement, dans cette démarche un peu de proposer un film apaisant, en tout cas apaisé, je voulais retrouver quelque chose qui, enfin bon, c'était dans mes intentions, mais un truc un peu qui soigne, quoi. Moi, en tout cas, ce film-là, c'était quand même la base. C'était quand même un truc un peu sombre, qui est une espèce d'angoisse de la mort, du temps qui passe. Et l'animation, c'était parfait pour ça aussi, parce que on maîtrise un peu le temps et la matière. Pour même si c'est très long, en fait, ça apaisait mes angoisses. Donc j'avais aussi cette envie qu'il y ait du son, qui vient caresser un peu les oreilles, quoi.
Alors ça c'est sûr, on est caressé doucement dans l'oreille par la musique de Tomoko Sauvage et par la bande son, hein, hors musique aussi, dans le film, parce que qui s'est occupé d'ailleurs du son dans le film?
Ouais, le son pour moi c'était vraiment très important, je pense comme dans tous les films, hein, mais là particulièrement, vu que le fil rouge de la narration est assez fin, j'avais vraiment envie de proposer une ambiance sonore au niveau des images et du son, et donc là c'est Loïc Burkhardt qui est vraiment, enfin moi en tout cas j'ai vraiment adoré travailler avec lui, parce qu'il a une espèce d'exigence, il est très très fin aussi dans moi ce que je lui disais, il arrivait à comprendre très vite ce qui se passait, et j'avais demandé à mes producteurs si c'était possible de garder une bonne enveloppe pour travailler ça, aussi dans un but de pouvoir tester, de pas être dans un truc, allez on a 5 jours et puis on enchaîne, quoi. Donc voilà, on revenait dessus, on a fait beaucoup de passages, on a travaillé assez longtemps sur la bande son. Et lui, il venait vraiment travailler ça comme de la dentelle, quoi. C'était vraiment une bonne expérience.
Ouais. Toujours dans l'idée d'évoquer le reste de l'équipe, parce qu'on a cette image forcément du dessinateur de bande dessinée à l'origine, ce que tu es, Charles. Un travail solitaire, comme ça, et en longueur, évidemment. Ouais. Même si toi, tu es responsable de l'animation, du dessin, de l'idée, du storyboard et tout, tu ne travailles pas pour autant tout seul, même sur l'animation, finalement. T'as quelqu'un qui t'aide au montage?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait toute la partie graphique dans un plaisir un peu romantique aussi. Enfin, en tout cas, moi, qui me plaît de travailler seul dans ma grotte. Enfin, j'avais une petite salle dans chez moi où je travaillais, et j'avais super hâte de travailler avec d'autres gens qui ont des capacités que moi j'ai pas, même des sensibilités d'oreille, des propositions, etc. Et donc, c'est vrai que pour l'image, j'ai travaillé avec Billy Belin, qui est une monteuse, et pareil, c'était vraiment génial de travailler avec elle. Elle a vu un peu le projet évoluer, donc il n'y avait pas grand-chose à expliquer, elle connaissait bien le projet. Et l'idée, moi, c'est que je venais avec ma base d'animation et des choses en plus. Donc il y a des passages avec des visions de Léopoldine, et ça, moi, j'en avais fait quelques minutes de plus, avec l'idée de pouvoir faire des espèces de tests de montage, voir ce qui pouvait marcher. Et voilà, donc sur la structure du film général aussi, on a changé deux, trois choses. Et pour ces moments de vision de Léopoldine, pareil, elle a trouvé des trucs super auxquels je n'avais pas du tout pensé.
Ça me rappelait, moi, par moments, un petit peu des moments de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton.
Bah, ça, c'est vraiment une grosse référence, c'est clair. Il y a La Nuit du Chasseur, il y a les films de Maya Deren aussi. Je ne sais pas si tu connais, mais je conseille d'aller voir. C'est vraiment magnifique. C'est des films assez vieux, mais qui ont inspiré des grands réalisateurs comme Lynch. Et voilà, donc j'avais un peu une petite banque de films que j'allais voir pour me remettre dedans quand j'avais besoin.
Ce film, voir le soleil se lever dans la lune, c'est un pas de côté dans ta carrière de BDaste.
Ben, ça, c'est la question que je me pose en ce moment. Les films, c'est quand même pas mal d'années pour avoir les subventions, si tout se passe bien. Mais moi, en tout cas, au niveau du plaisir de travail, je pense que c'est le projet que j'ai préféré faire. J'ai vraiment trouvé ça génial. Il y a ce côté où donner vie à un dessin, c'est vraiment magique. Donc, j'ai d'autres projets de films. J'ai même plus de projets de films que de bandes dessinées. Mais voilà, je sais pas encore si c'est un pas de côté. Je pense que je referai des films, mais là il me faut un peu voir autre chose. Là j'ai deux projets de bande dessinée en cours, mais je continue à écrire, à prendre des notes, à prendre des images un peu partout pour nourrir mes autres films. Mais ce qui est étonnant, c'est que là les projets de bande dessinée, c'est des projets quand même plutôt scénarisés. Les deux sont documentaires en fait. Alors qu'en animation, j'ai vraiment envie de faire des choses qui se rapprocheraient un peu plus d'un cinéma expérimental, parce que j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de prendre plaisir et je sais pas, ouais, ça pareil, toujours par rapport à ces angoisses un peu, il y a un truc qui me plaît de développer ce côté dessin vivant, quoi, de donner vie à quelque chose à partir d'images fixes prises les unes après les autres, ça me plaît.
Bon, on guettera la suite des aventures de Charles Nogier, évidemment. On pourra voir ton film plusieurs fois cette semaine à Rennes pendant le Festival National du Film d'Animation. Vous retrouvez toutes les programmations sur festival-film-animation.fr. Bon, je mettrai le lien, bien sûr, sur la page du Grand Tout sur canalb.fr. Il sera montré en compagnie de films de Patrice Blanc, de Paul Scharf, de Robinson Drossos, de Mathéa Le Tessier. As-tu vu les films de tes collègues ?
J'ai vu aucun des films, donc je suis très content de les découvrir. Là.
Bon, vous pourrez en tout cas les entendre eux aussi, notamment ce jeudi 24 avril. Ça sera à 16h au TNB à la salle Jouvet pour la compétition numéro 10 dans ma tête. Bon, on est rentré un petit peu dans la tête de Charles aujourd'hui. J'espère que ça ne faisait pas trop mal, ça va ?
Non, ça va. C'était super.
Merci beaucoup. On termine la discussion avec encore un peu de la musique de Tomoko Sauvage. Je répète, c'est pas la musique du film, mais c'est elle qui a fait la musique du film. Merci Charles.
Merci à toi.
C'était un extrait d'un titre musical qu'on doit à Tomoko Sauvage, qui a fait la bande originale du film dont on parlait tout à l'heure avec son réalisateur Charles Nogier. J'ai nommé Voir le soleil se lever dans la lune. Je vous rappelle que vous avez l'occasion de le voir à plusieurs reprises cette semaine pendant le Festival National du Film d'Animation, notamment jeudi à 16h au TNB, dans le programme Dans ma tête. C'est la compétition numéro 10 avec quelques rencontres, notamment celle de Charles Nogier. À suivre, Plein les poches, numéro 60.
Plein les poches. Plein les poches, c'est la chronique Livre de poche par Soizig Le Bay sur Canal B.
Comme tous les mercredis dans l'émission Le Grand Tout sur Canal B, on retrouve Soizig Le Bay. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Pour nous parler bouquins aujourd'hui, tu parleras dans cette chronique Plein les poches, de ce roman intitulé Ces femmes-là par Ivy Pochoda. C'est traduit de l'anglais des États-Unis par Adélaïde Pralon et c'est paru aux éditions Globe dans les collections Satellite.
West Adams est un quartier délabré de Los Angeles, traversé par l'autoroute qui mène à la mer et où persistent les traces des émeutes raciales de 1992. Quartier pauvre, bien sûr, qui a connu des heures meilleures, quelques maisons délabrées en sont les témoins. Y vivent des dealers. Et le roman s'attache à raconter le quotidien des femmes danseuses, dénudées, dans une boîte de nuit avec salon particulier. Prostituées qui arpentent les trottoirs la nuit pour survivre et supporter ça. La poudre, l'herbe, les médicaments sont de bons remèdes. Dorian a perdu sa fille Letchia il y a 15 ans. Elle a été assassinée, la gorge tranchée dans la rue. Elle revenait d'un babysitting. Letchia n'était pas une prostituée. Ce n'était pas la première victime. D'autres femmes avant elle avaient subi le même sort. Des prostituées, enquête bâclée, voire pas d'enquête. Ces femmes-là comptent si peu. Elles sont le plus souvent noires ou latinos. Et Dorian n'a pas lâché, elle. Elle harcèle encore les policiers du quartier 15 ans après. Sa fille n'était pas une prostituée, le trueur s'est trompé. D'ailleurs, depuis, il a arrêté. Dorian, elle tient une petite boutique de fritures ouverte tard le soir. Et elle veille à la qualité. Elle nourrit souvent les femmes de la nuit qui arpentent devant sa boutique. Juliana était l'enfant que Letchia gardait le soir de sa mort. Devenue une femme fantasque, à la lisière de la prostitution, elle danse dans la boîte de nuit, elle vit en coloc. Son ex-meilleure amie, Catherine Sims, a choisi le trottoir parce que ça rapporte plus et qu'elle élève seule ses trois enfants. Elle sera la nouvelle victime retrouvée, la gorge tranchée, au petit matin. Les policiers ont oublié les crimes d'il y a 15 ans, ou bien refusent l'idée d'un tueur en série. Tout, sauf ici. Elle, elle est lieutenant aux mœurs, et elle connaît bien son quartier, elle connaît bien les filles. Oui, mais ici est au placard. Elle a eu un accident qui a tué deux gamines, et elle ne s'en remet pas. Elle est revenue après un long arrêt, elle a été mutée, et cette enquête ne sera pas la sienne. Ce texte pourrait être un polar. Des meurtres, des policiers. Mais ce n'est sans doute pas ce qui a intéressé l'auteur. Non. Elle a privilégié les portraits de ces femmes invisibles, de ce monde interlope de la nuit, où elles se débrouillent pour gagner leur vie, la peur au ventre. C'est leur voix qu'on entend tour à tour, joyeuse et désinvolte pour les jeunes, rocailleuse et résignée pour les plus anciennes. Ces femmes-là pourraient être nos sœurs. Elles ont des rêves, des ambitions, de la rage, de l'humour aussi. C'est un récit choral poignant et j'avais envie de vous lire un petit paragraphe qui se trouve quasiment au milieu du texte. Des mecs qui croient que parce qu'ils ont un boulot, une famille, une situation stable quelque part, ça veut dire qu'il va mieux que toi, qu'ils ont le droit de t'utiliser. Des mecs qui croient que le fait qu'ils aient de quoi payer ton corps, tes cocktails ou ton dîner, leur donne tous les droits. Ah, Juliana voit déjà comment ça va finir. Hein. Elle va se ranger quelque temps, prendre un boulot hors du milieu, mais le salaire ne suffira pas, il ne lui permettra pas de remettre sa vie en ordre. Et un soir, une de ses copines l'invitera à une fête et elle retournera avec la bande se la coller jusqu'au matin. Bientôt, elle prendra un deuxième boulot, un truc avec des pourboires, et petit à petit, elle se retrouvera à la périphérie du milieu. Elle fera pas le tapin, non, ça jamais. Elle passera la nuit dans les motels, à des soirées, où la frontière entre les filles invitées et les filles payées s'estompe à mesure que l'aube approche. Ivy Pochoda est une ancienne joueuse professionnelle de squash. Maintenant, elle se consacre à l'écriture. Et elle est titulaire d'un BA en littérature grecque classique de Harvard, s'il vous plaît. Et un MFA, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en écriture au Binghamton College.
Merci, Swazig, pour cette chronique autour de ces femmes-là par Ivy Pochoda. C'est traduit de l'anglais par Adélaïde Pralon et c'est paru aux éditions Globe dans la collection Satellite. On te retrouve mercredi prochain et peut-être qu'on sera plus aux États-Unis cette fois-ci.
Non, je crois que non.
Bon, et bien ça tombe.
Et puis peut-être ça sera pour les plus jeunes.
Eh bien d'accord, à bientôt donc, merci.
À bientôt.
Plein les poches, c'est la chronique Livre de poche par Swazig Le Bay sur Canal B.
On va s'en mettre plein les poches.
Merci à Swazig Le Bay qu'on retrouvera mercredi prochain pour nous parler bouquins à nouveau dans Le Grand Tout. L'illustration musicale de cette chronique plein les poches numéro 60, eh bien, c'était un titre de Queen Latifah. On était plutôt sur la côte est aux États-Unis en 1989 avec ce titre The Pros featuring Daddy-O. C'était sur le premier album de cette grande dame du hip-hop américain, période old school. Dans la session info-concert du Grand Tout, aujourd'hui, je n'évoquerai qu'un seul événement, l'édition 2025 pour le 14e Folks Blues Festival de Binic. Il aura lieu cette année les 25, 26 et 27 juillet, comme vous le savez peut-être si vous êtes des aficionados, puisque la Nef des Fous, l'asso qui organise ce festival, a donné la programmation le dimanche 20 avril, il n'y a pas très longtemps, vous comprenez bien. C'est le dessinateur René Zanzi qui en a fait l'illustration, une affiche un peu trop enfantine je trouve à mon goût, qui est un peu loin des choses plus mystérieuses, plus mystiques même presque, hein, qu'on avait pu voir en illustration visuelle du festival. Bon, qu'à cela ne tienne, qu'importe l'affiche, qui est très chouette quand même, hein, je le dis, mais bon, j'aime un peu moins, qu'importe l'affiche, pourvu qu'on ait une programmation qui va tout défoncer sur son passage, avec une grosse escouade australienne, hein, on connaît bien le festival de Binic pour cette composante-là, une programmation qui se divise entre donc une grosse escouade australienne, pas mal de groupes américains, et puis aussi quelques groupes du Pays Basque, et toujours un ou deux groupes du Pays Basque, et puis des groupes français. Ça se baladera toujours entre rock'n'roll assez vitaminé, côté un peu post-punk aussi, et puis ambiance garage de temps en temps. Vous retrouverez toute la programmation de toute façon sur le site lanefdesfous.fr. Nous, on va se limiter à 4 artistes extraits de cette programmation-là. On va commencer par les Américains Death Demonaz, qui sortaient il y a quelques mois sur le label In The Red, un excellent album. Je l'avais choisi comme disque d'or de la semaine, d'ailleurs, le disque apocalyptique Boom Boom. On n'avait pas entendu de rock'n'roll américain aussi classe depuis les Dirt Bombs, peut-être, groupe mythique de Détroit avec à sa tête Mick Collins. Les Death Demonaz mélangent ambiance un peu rugueuse, un peu post-punk, et puis quelques souvenirs garage rock tout à fait bien assimilés. Voici le titre qui donnait son nom à leur album, apocalyptique Boom Boom, les Death Demonaz, à voir au Binic Folks and Blues Festival cette année. You kill the blood, you kill the sea.
Trying to be citizens.
Le groupe australien Civic, qui lui aussi fait partie de la riche programmation du Binic Folks and Blues Festival. Ce sera les 25, 26 et 27 juillet. Pour l'instant, j'ai pas le détail exactement de quel jour pour quel groupe, mais vous trouverez ça assez rapidement, j'imagine, sur le site lanefdesfous.fr, où on retrouve tous les noms des groupes présents ce week-end fin juillet à Binic. Vous retrouverez aussi ce qu'on va écouter dans un instant, Hoover 3, et leur musique psychédélique sinueuse, un peu au ralenti par moment, toujours pour nous surprendre. Évidemment, vous allez entendre le titre de Tall Grass par Hoover 3. Et puis, il y aura aussi ce qu'on écoutera un peu plus tard, dont je vous parlerai après que vous aurez entendu ces deux titres qui viennent. Et là, on sera plutôt du côté expérimental, improvisé, qui vient d'Australie. Mais pour l'instant, Hoover 3 au Binic Folks and Blues Festival. We'll be right back. C'était le duo mixte australien Party Dozen. Elle est au saxophone, il est aux percussions. On a parfois du mal à imaginer que ce ne sont que deux musiciens qui font tout ce raffut, mais pourtant c'est vrai. Vous entendiez à l'instant Party Dozen et le titre Bad News Department, un groupe qui rejoint la programmation donc du Binic Folks and Blues Festival à Binic en Côte d'Armor les 25, 26 et 27 juillet, toujours programmé par la Nef des Fous. Vous retrouvez toutes les infos à mesure qu'elles arrivent. Pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les informations, je vous le répète, sur le site lanefdesfous.fr. Et pour terminer les émissions Le Grand Tout cette semaine, eh bien, on écoute des extraits des albums de Go Go Juice, groupe normand, qui lui nous propose un univers dance rock. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent leur mélange d'influences diverses entre pop, post-punk, ambiance très dansante. Vous allez entendre un extrait de l'album Rewind the After Party de Go Go Juice. Et puis juste après, eh bien, ce sera le fameux duo électronique français Tambour Battant qui lui vous proposera un extrait de son album Welcome. Les albums de Tambour Battant et puis de Go Go Juice sont à découvrir cette semaine sur les radios de la Ferrarock, dont Canal B. Toutes les infos à retrouver sur ferrarock.org. Nous on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission Le Grand Tout, encore une fois grandement consacrée au Festival National du Film d'Animation qui, je vous le rappelle, se déroule à Rennes toute cette semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Time there are no more colors. Where is it? Blood, red sky, everything is black. No more sun. So what to do? Wait, die, sleep. People are blind now. It rains a sea.
ours not to claim. We'll give it to a kid, but kids are not stupid. 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 Kids are not.